Vu d'en haut, de très haut, ça ressemble à des moutons de poussière, des amas de laine et de coton qui roulent jusqu'à la mer. Les images prises par les satellites de Copernicus, le système de surveillance européen, ne donnent qu'une idée très sommaire de la violence de ces incendies, puisque c'est de cela qu'il s'agit, que ce soit en Grèce, où la polémique a presque précédé le recueillement, on l'entendait dans les journaux de Sophie Delpont, mais aussi dans le nord de l'Europe, Suède, Finlande et aussi dans une moindre mesure la Norvège. Bonjour Thomas Kurt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche sur les incendies de forêt de l'IRSTEA, qui est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, basé à Aix-en-Provence. Vous êtes d'ailleurs vous-même en duplex depuis France Bleu Provence, que je remercie. Alors on va éviter de commenter évidemment pour l'instant ce qui a pu se passer en Grèce, où le gouvernement d'Alexis Tsipras suspecte une ou plusieurs mains criminelles. D'abord, un mot sur l'intensité de ces feux, qui surprend moins quand ils sont dans le sud de l'Europe, parce qu'on a l'habitude, que lorsqu'ils se trouvent dans le nord. Aussi loin que remontent vos documents, vos archives, Thomas Kurt, est-ce qu'il y a toujours eu des feux de forêt dans le nord de l'Europe ?
Oui, tout à fait. On le sait pas forcément, mais il y a de grands incendies et des incendies relativement fréquents dans le nord de l'Europe, alors que ce soit là pour le coup en Suède, en Norvège ou en Russie, c'est un peu plus connu en Russie. Ça paraît étonnant de prime abord parce qu'on se dit voilà, ce sont des zones qui sont relativement fraîches, relativement froides. Or, ce qu'on sait, c'est que pour qu'il y ait un incendie de forêt ou de milieu naturel, il suffit de trois conditions minimales. Si ces trois conditions sont réunies, il peut y avoir un incendie. Il faut qu'il y ait une fenêtre météo suffisamment chaude et sèche pour que la végétation se dessèche. Dans les forêts du Nord, ça va être simplement quelques semaines par an, alors que chez nous, en Méditerranée, ça va être beaucoup plus longtemps. Et après, il faut de la végétation combustible, des forêts, mais pas seulement. Ça peut être des broussailles, des herbes, etc. Et puis, il faut quelque chose qui mette le feu, ce qu'on appelle une ignition.
L'étincelle, quoi.
Ça peut être de la foudre ou ça peut être l'homme.
Et dans la plupart des cas, c'est l'homme ou c'est la foudre, alors ?
Alors, typiquement, il y a un grand contraste entre ces feux de l'Europe du Nord, dans lesquels une très forte proportion, par exemple au Canada, ça arrive à 60%, sont des feux de foudre. Donc, en fait, c'est une cause naturelle. La foudre tombe sur la végétation, enflamme la végétation. Alors que dans le sud de l'Europe, et notamment dans le bassin méditerranéen, c'est l'homme à 90%, voire 95%, qui met le feu.
Quand on dit l'homme, c'est pas nécessairement une main criminelle comme est suspecté en tout cas d'avoir agi en Grèce le gouvernement d'Alexis Tsipras, mais des activités professionnelles, le brûlis par exemple quand on défriche par le feu ou autre.
Oui, exactement. L'homme est responsable en Méditerranée, en Europe globalement, d'en gros 90% des feux. Ça signifie pas que l'homme est criminel à chaque fois qu'il met le feu. C'est très important de bien comprendre, dans la mesure où 90% des feux sont allumés par l'homme en Europe, c'est important de comprendre pourquoi. Comprendre les motivations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un grand nombre d'incendies, de feux de végétation, de feux de broussailles, voire de feux de forêt, sont allumés par l'homme plutôt pour nettoyer la végétation, pour nettoyer par exemple la végétation dans les forêts en automne ou en hiver ou au printemps. Donc a priori, ces types de feux sont des feux qui vont être allumés dans des conditions météo dans lesquelles le feu ne pourra pas se propager très loin. L'idée générale, c'est de nettoyer la végétation avec un feu modéré, de faible intensité, pour, par exemple, permettre à des troupeaux de rentrer. C'est ce qu'on fait dans le feu pastoral. On élimine les buissons et les herbes de manière à ce que le troupeau puisse pâturer. Et puis, évidemment, le feu, c'est d'abord l'outil essentiel de l'agriculture depuis 10 000 ans. Le feu, ça sert d'abord à faire de l'agriculture dans beaucoup de pays, ce qu'on appelle les cultures sur brûlis. On brûle la végétation, alors on va brûler les herbes, les broussailles qui sont au sol, voire des fois les forêts. Alors c'est fréquent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et puis, le fait de brûler la végétation va donner une petite fertilisation au sol. Et puis derrière, on va pouvoir cultiver.
Alors vous mentionnez aussi dans vos travaux les accidents de voiture, les feux de décharge comme facteur humain, comme activité professionnelle susceptible d'être à l'origine d'un feu. Et la météo donc qui peut agir comme ce qu'on appelle un Bouffadou à côté des cheminées pour attiser le feu. La Grèce était en plein épisode de canicule quand s'est déclaré l'incendie. Il faisait 40 degrés à Athènes. La Suède bat des records de chaleur avec plus de 32 degrés alors qu'on est pour la plupart de ces régions près du cercle polaire. Outre les épisodes de canicule, comment le climat tout au long de l'année peut rendre un territoire vulnérable ou pas aux incendies ?
Bien, comme je vous le disais, il y a des régions du monde dans lesquelles l'incendie est présent et où la fenêtre météo favorable aux incendies, c'est-à-dire suffisamment chaud, suffisamment sec, va être simplement d'une semaine, de deux semaines. C'est le cas dans les régions du nord de l'Europe. Là, il y a des gros incendies parce qu'il y a une grande sécheresse. C'est pas tous les ans et c'est pas tous les ans à ce niveau d'intensité. Donc, dans certaines régions, ça va être des périodes très courtes qui vont être favorables, une, deux, trois semaines. Dans d'autres régions, comme les régions méditerranéennes ou je sais pas les régions beaucoup de régions d'Afrique par exemple, ça va être presque tout au long de l'année que la fenêtre météo sera ouverte, sera favorable.
Alors on a beaucoup parlé de l'effet du changement climatique sur ces incendies, on a moins parlé de l'évolution des paysages comme d'un facteur à la fois de risque et d'aggravation des incendies, et c'est tout le propos de vos recherches. Olivier Kurt, vous disiez qu'au Canada par exemple, la plupart des incendies sont d'origine naturelle, c'est la foudre qui les déclenche, sauf que souvent les conséquences humaines en tout cas sont beaucoup moins dramatiques que dans nos pays européens, pour des raisons d'augmentation de la population essentiellement et d'urbanisation, en ce qui nous concerne en tout cas.
Oui, tout à fait. Dans les régions méditerranéennes, en Europe méditerranéenne notamment, les incendies de forêt, c'est souvent un problème, c'est souvent dramatique, comme on le voit là en Grèce, on le voit très régulièrement au Portugal, en Espagne, dans beaucoup de pays du bassin méditerranéen. Pourquoi ? Parce que les départs de feu étant causés à 90-95% des cas par l'homme, plus vous allez avoir de population, plus vous allez avoir d'infrastructures, de routes, de lignes électriques, de décharges, etc., de voies ferrées, plus vous aurez des probabilités qu'il y ait des départs de feu. Donc les zones les plus urbanisées, les zones les plus dans lesquelles il y a de fortes densités de routes, sont les zones qui sont préférentiellement les zones de départ de feu. Dans l'autre sens, l'homme est aussi la première victime de ces incendies qu'il provoque souvent accidentellement, sans le vouloir. Une voiture prend feu, une ligne électrique tombe au sol et démarre un feu. Donc l'homme est aussi la première victime. Donc plus vous allez avoir de population au kilomètre carré, et plus vous aurez des risques de pertes humaines, de dommages économiques, de dommages écologiques, etc.
On a construit dans des zones dangereuses, Thomas Kurt, c'est le même débat que pour les inondations.
Mais ça s'est fait peut-être plus dans les décennies précédentes qu'aujourd'hui. Effectivement, une des grandes questions, c'est la maîtrise en France et pas seulement dans beaucoup de pays du monde, c'est la maîtrise de l'urbanisation. Quand on sait qu'une zone a déjà brûlé plusieurs fois ou qu'une zone est une zone à risque incendie élevé, par exemple du fait de son climat, d'une végétation très abondante, très inflammable, il faut éviter autant que faire se peut de construire dans cette zone-là. Alors très clairement, la France, qui est un pays très administré et très organisé du point de vue de la sécurité civile, en France, voilà, on ne peut plus construire dans un certain nombre de zones. Ce qui réglemente tout ça, c'est ce qu'on appelle les plans de prévention des risques incendies de forêt. Ces plans existent à l'échelle des communes et permettent de définir les zones dans lesquelles il ne faut pas urbaniser parce que c'est dangereux.
Et à l'inverse, donc urbanisation d'un côté, et à l'inverse, dans les territoires ruraux, des prises agricoles et pastorales, des terrains qui longtemps ont été cultivés ou sur lesquels on faisait paître des bêtes et qui ne sont plus aujourd'hui que des tas de broussailles et évidemment inflammables.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un autre paysage qui existe aussi en Europe et notamment en Europe méditerranéenne. Ces paysages que beaucoup d'entre nous connaissent, qui sont d'anciens paysages ruraux, qui depuis la déprise agricole suite à la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60-70, vous savez qu'il y a eu beaucoup de déprises agricoles. L'agriculture globalement a reculé dans les zones de montagne, dans les zones rurales. C'est pas vrai partout, hein, mais elle a reculé dans beaucoup de montagnes. Le fait d'avoir moins de pâturage, le bétail consomme moins la végétation, le fait d'avoir moins d'agriculture, moins de culture, ça fait que les paysages s'embroussaillent, la végétation s'embroussaille, se referme. De la même manière, en France, et pas seulement en France, les forêts s'étendent depuis un siècle. Et donc, toute cette accumulation de biomasse végétale, de végétation qui peut être combustible, augmente aussi le risque.
Les forêts s'étendent, dites-vous. C'est vrai que contrairement à une idée reçue qui voudrait qu'en France... La France n'est pas l'Amazonie, en tout cas, où les forêts disparaissent. Chez nous, elles s'étendent, mais des forêts bien particulières, des forêts qui ne sont plus celles qu'on pouvait voir il y a encore un siècle.
Oui, il y a aussi un effet des changements climatiques, un effet direct sur les forêts. Et ça, on le néglige, nous qui travaillons sur les incendies de forêt, on voit l'effet des changements climatiques sur le risque incendie lui-même. Mais il faut réfléchir aussi qu'il y a un effet des changements climatiques sur les forêts elles-mêmes ou sur la végétation. Ce qu'on observe, c'est avec le réchauffement climatique et les dérèglements climatiques, il y a une augmentation de la mortalité de certaines espèces en forêt, parce que certaines espèces tolèrent mal les grosses chaleurs, les longues sécheresses. Du coup, on a une accumulation aussi de biomasse qui est morte soit sur pied, des arbres qui peuvent mourir sur pied, ou de la végétation, des arbres qui va tomber au sol, créer de la litière qui sera prête à s'enflammer.
Donc les changements climatiques ont changé nos forêts, mais l'activité humaine, ces forêts de monoculture pour les besoins de l'industrie, la filière bois, est-ce que ça a changé quelque chose pour le sujet qui nous occupe ?
Ce qui est certain, c'est que avoir le paysage idéal tel que le voient les gens qui travaillent sur le risque incendie de forêt, ça serait un paysage qui serait hétérogène, un peu varié, morcelé, avec peut-être des forêts, des garrigues, mais aussi des zones agricoles, des zones cultivées, des zones entretenues, etc. Ça serait un paysage idéal. Pourquoi ? Parce que le feu, il se comporte, il se propage par ce qu'on appelle par contagion, c'est-à-dire qu'il démarre d'un point donné, et puis poussé par le vent, en fonction de la topographie, il va se propager partout où il y a de la végétation. Donc l'idéal, c'est d'avoir des paysages qui ne sont pas complètement fermés par une seule espèce et une végétation continue. Et du coup, quand on a effectivement des grandes forêts continues d'une même espèce, potentiellement, on court un risque important.
Et pourtant, les landes, par exemple, c'est de la monoculture et les gros incendies, ils sont quand même rares aujourd'hui.
Oui, ben vous avez raison de citer cet exemple. Le massif des Landes, c'est un exemple emblématique et remarquable du fait que il y a pas de contradiction avec ce que je disais avant. Hein. Les Landes, c'est un massif essentiellement de pins maritimes. C'est une espèce résineuse qui peut être très inflammable. La question, c'est que la forêt des Landes, qui est le plus grand massif forestier européen d'un seul tenant, c'est une forêt qui est très gérée. Le pin maritime permet de générer des ressources financières suffisantes en fait pour entretenir régulièrement la forêt, c'est-à-dire au lieu de laisser la biomasse se suraccumuler, on exploite une partie de la forêt, on enlève une partie de la végétation et surtout la gestion forestière permet de faire ce qui est idéal, c'est-à-dire de faire elle-même de financer la protection des forêts contre l'incendie. Essentiellement, ça veut dire que dans cette forêt, ça permet d'ouvrir les ressources financières générées par la forêt, permettre d'ouvrir des routes, des accès pour les pompiers, d'installer des tours de guet pour surveiller et d'installer des points d'eau pour avoir de l'eau à proximité. Oui, l'exemple de la forêt landaise, c'est une forêt de pins d'un seul tenant, on va dire, très schématiquement, plate, mais qui est très bien gérée, très surveillée.
Voilà, avec des pompiers partout dans les casernes, sur ces tours de guet, les miradors, on a appris aussi dans les Landes de l'incendie d'août 49 qui avait tué 82 sauveteurs à l'époque et qui avait évidemment traumatisé la région. Depuis quand en France est-ce qu'on voit des pompiers postés sur le terrain, prêts à intervenir? Bref, une politique d'attaque massive du moindre départ de feu, parce que ça commence par là.
Oui, exactement. Ben la défense des forêts contre l'incendie, c'est un processus qui s'est développé depuis les années 70 de façon très très nette. Et il y a eu un moment important dans les années 90-94, qui était la mise en place d'une nouvelle politique renforcée après les grands feux dramatiques des années 90. L'idée générale de cette politique, c'était d'être plus efficace tout au long de la chaîne qui va depuis la prévention, la prévision, l'alerte des feux jusqu'à la lutte, jusqu'à leur suppression. L'idée générale, c'est dans cette nouvelle stratégie mise en place dans les années 90, c'est d'attaquer massivement tout ce qu'on appelle les feux naissants, c'est-à-dire les départs de feu. Dès qu'il y a un départ de feu, la sécurité civile envoie tous les moyens disponibles pour essayer de l'éteindre le plus vite possible.
Et donc, est-ce qu'on a une idée de la durée aujourd'hui en moyenne d'un incendie en France ?
Oui, la France, par rapport, quand on parlait des feux en Suède, ils peuvent durer, ou au Canada, ils peuvent durer des jours, voire des semaines. En France, la plupart des feux sont éteints évidemment dans la journée. Quelques-uns durent deux ou trois jours, mais c'est quand même rare. La plupart sont éteints très rapidement, voire dans l'heure. Et ça, c'est lié au fait que, comme vous le disiez, les pompiers sont prépositionnés sur le terrain. On les voit souvent l'été, ils sont là avec les camions, ils sont installés à proximité des forêts, voire dans la forêt, à des endroits où on sait qu'il y a souvent des départs de feu. Ça leur permet de gagner 10 minutes, un quart d'heure par rapport à arriver de la caserne.
Voilà, des incendies courts. Alors, espérons que ce soit le cas aussi pour celui qui s'est déclaré hier dans le Jura, au sud de Lons-le-Saunier. C'est un feu de végétation qui s'est ensuite propagé au massif forestier voisin. Thomas Kurt, globalement, est-ce qu'on peut dire que les territoires les plus touchés sont aussi ceux qui sont les moins bien équipés pour la lutte, qui ont le moins de moyens matériels et humains ?
Ben, à l'échelle globale, oui, c'est vrai que dans les territoires dans lesquels la lutte, et pas seulement la lutte, c'est-à-dire la prévention, l'alerte, tout le système de sécurité civile, de surveillance des incendies, dans les pays où ces systèmes sont relativement faibles, il y a des pays dans lesquels l'effort financier n'est pas possible très fortement sur cette question, c'est certain que ça favorise le développement des grands feux. Dans un pays comme la France, qui est quand même un des fleurons européens en matière de sécurité incendie, incendie de forêt. Voilà, l'intervention est rapide, les moyens sont très efficaces, les pompiers sont bien formés, etc. En principe, ça permet d'arrêter, c'est l'idée générale, d'arrêter le plus possible de départs de feu dans les 10 premières minutes.
Thomas Kurt, comment a évolué aujourd'hui notre rapport au feu qui n'a pas toujours été considéré comme un désastre? Vous le disiez tout à l'heure, l'agriculture a longtemps été, enfin le feu a longtemps été un outil pour l'agriculture, pour le pastoralisme, mais on savait à une époque, on savait maîtriser un feu, on savait faire des feux ici et là et parfois les faire durer même des mois entiers sans que jamais ils présentent un danger. Qu'est-ce qui s'est perdu en fait?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose en France que dans d'autres pays du monde, mais globalement, c'est vrai que le feu, c'est d'abord l'outil numéro un pour l'agriculture et pour les troupeaux, pour le pastoralisme. Et c'est vrai que dans les années, jusqu'aux années 50, on avait une France majoritairement rurale, une France dans laquelle les personnes qui étaient en milieu rural étaient souvent savaient mettre le feu, savaient faire du feu à une période sans risque, de manière à maîtriser, à contrôler le feu, à pouvoir l'éteindre très facilement. Tout ça s'est perdu. Ces paysages-là, comme on le disait tout à l'heure, ils se sont embroussaillés, ils se sont renfermés. Au jour d'aujourd'hui, si vous mettiez le feu au même endroit, vous auriez un risque que le feu s'étende beaucoup plus important.
Mais donc, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des régions en France où le feu reste un outil pour les agriculteurs ?
Oui, tout à fait. Bon, ce qu'on appelle les écobuages ou les feux en dehors de l'été, donc c'est à partir de l'automne, pendant l'hiver et au printemps, ça existe dans pas mal de régions, dans les Pyrénées, dans les Alpes, je sais pas, il y en a dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Cévennes, en Ardèche. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vraiment des feux dont l'objectif est de nettoyer doucement la végétation et surtout pas d'échapper, c'est-à-dire ils sont allumés des jours où c'est possible. Alors ça devient de moins en moins possible parce que beaucoup de départements, notamment dans le sud, interdisent les feux, ce qui semble assez logique. Par contre, dans le même temps, on assiste à un retour de ce qu'on appelle le brûlage dirigé. Alors, le brûlage dirigé, ce sont des feux qui vont être allumés par des experts du feu, donc ce sont soit des pompiers, soit des forestiers, qui sont certifiés, formés pour ça, et qui vont de nouveau nettoyer un peu la végétation avec une vraie expertise sur le contrôle du feu.
Voilà, les incendies dépendent tout à la fois des interactions entre la météo, l'occupation des sols et les activités humaines. Comment s'adapter? Quelles solutions mettre en œuvre? Thomas Kurt, vous restez rester avec nous. On vous retrouvera pas le journal. Nous passerons aussi un coup de fil en Suède au colonel Pierre Chaleur, chef du département français de la sécurité civile, qui a été envoyé en renfort. À tout à l'heure.